France Culture.
Héloïse Weiss, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. L'Union syndicale des magistrats dénonce des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Elle vise la présidente du tribunal qui a condamné Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison. On y revient dès le début de ce journal. Le congrès des maires ruraux se tient en ce moment dans la Vienne, à 6 mois des municipales. Quels sont leurs défis? Pour en parler, Michel Fournier, président de l'association des maires ruraux, est notre invité. Nous serons en Iran. Téhéran rappelle ses ambassadeurs de Berlin, Paris et Londres. Et en Moldavie, où le pays est la cible d'ingérence russe à la veille des élections législatives. Sa photo a été publiée sur les réseaux sociaux et elle est la cible de menaces. La présidente du tribunal qui a condamné Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison ferme fait l'objet d'un cyberharcèlement violent d'après l'Union syndicale des magistrats. Deux enquêtes ont même été ouvertes par le parquet de Paris pour menaces de mort. Eva Kling, bonjour.
Bonjour Héloïse, bonjour à tous.
Et la décision de la magistrate continue de faire réagir, notamment à l'extrême droite.
Thomas Ménager, député Rassemblement National du Loiret, condamne ce matin sur France Inter les menaces de mort visant la présidente du tribunal, mais il critique la décision de justice qu'elle a rendue.
Il y a des magistrats qui font leur boulot avec objectivité, et il y a des magistrats, comme dans tous les métiers, qui sont des mauvais magistrats en l'occurrence, puisqu'ils font de la politique, ils n'arrivent pas à faire fi de leurs opinions.
Des attaques envers la justice similaire à celle entendue il y a 6 mois après la condamnation de Marine Le Pen. Et un discours dangereux met en garde Aurélien Martini, secrétaire général adjoint de l'Union syndicale des magistrats.
L'autorité de l'État, ça passe par une institution qui est régalienne et qui est chargée de faire appliquer la loi, notamment la loi pénale, qui est l'institution judiciaire. Demain, et même aujourd'hui, à vrai dire, on a besoin d'une autorité judiciaire crédible. Donc on ne peut pas d'un côté la décrédibiliser et après lui demander de remplir correctement sa mission.
Sur les réseaux sociaux, des photos de la présidente du tribunal ayant condamné Nicolas Sarkozy, des appels à la violence aussi, et des menaces qui rappellent là aussi celles proférées durant l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement National. La présidente du tribunal était même placée sous protection judiciaire, ce qui est très rare, explique Aurélien Martini.
D'habitude, mes collègues sont menacés par le crime organisé et avec aujourd'hui des affaires médiatisées mettant en cause des personnalités publiques connues, se dessine un nouveau risque, de nouvelles menaces qui sont le fait de gens qui sont un peu sensibles à l'air du temps ou en tout cas excités sur les réseaux sociaux et qui menacent de s'en prendre directement aux collègues.
D'après l'Union des syndicats des magistrats, ces attaques envers la justice mettent en danger la séparation des pouvoirs.
Eva Kling pour France Culture. Le député RN Thomas Ménager qui estime par ailleurs que Sébastien Lecornu va droit dans le mur. Hier dans Le Parisien, le Premier ministre a annoncé ses orientations. Il promet le maintien de la réforme des retraites et écarte le retour de l'impôt sur la fortune. Sébastien Lecornu qui rouvre également le débat sur la décentralisation des missions de l'État. Le sujet s'est aussi invité au congrès des maires ruraux qui se déroule en ce moment dans la Vienne. Pour en parler, l'invité de la rédaction est Michel Fournier, président de l'association des maires ruraux. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
Alors Sébastien Lecornu propose donc aux élus locaux de lui transmettre des propositions sur la décentralisation d'ici au 31 octobre. Dans un futur projet de loi, il veut clarifier les rôles et compétences entre État et collectivités territoriales. Aujourd'hui, quelles sont vos propositions à vous? De quoi avez-vous besoin?
Oui, alors tout d'abord, vous dire que l'intention est louable. On a quelques réserves, pas sur l'intention, mais sur le fait que ça fait plusieurs fois que l'on nous parle de la potentialité de cette décentralisation. Et vous savez, les maires ruraux sont toujours des gens très prudents, parce que chaque fois que l'on a évoqué cela, on a recentralisé. Alors, j'espère que c'est pas la volonté, je suis même persuadé que c'est pas sa volonté. Toujours est-il que nos propositions, elles sont anciennes, hein. Elles sont très importantes dans la mesure où faut pas oublier que l'histoire récente faisait que l'intention était tout simplement de recentrer les collectivités, donc supprimer d'autres collectivités. On sait qu'à un moment donné, il y avait en gros l'État, la région et l'interco. point barre. Donc aujourd'hui, nous, ce que l'on souhaite et que l'on va remettre au Premier ministre, c'est tout un volet de réflexion que nous avons déjà faite depuis plusieurs années sur le fait que chacun doit exercer son rôle, c'est sûr, sans se chevaucher, on est bien d'accord, mais que chacun doit exercer ce rôle parce qu'il ne faut pas l'oublier que la commune, au départ, c'est elle qui a la compétence générale et non pas l'intercommunalité.
Donc très concrètement, c'est plus de pouvoir.
Très concrètement, c'est plus laissez-nous nous organiser comme nous le souhaitons, avec les compétences définies à un endroit ou à un autre, parce que ces compétences, quelquefois, on ne peut pas les exercer au niveau de la commune seule, mais quelquefois, il n'est pas nécessaire de l'imposer dans l'intercommunalité, par exemple. Parce que finalement, ça diminue le rôle de l'application de proximité qui est nécessaire pour nos habitants, nos administrés. Aujourd'hui, un administré, le paysage politique, il ne le connaît absolument pas. Il ne sait pas à qui s'adresser, sauf à la commune. Même si la commune n'exerce plus la compétence. Et la décentralisation, ça doit être de clarifier ces choses-là pour se dire, tel objet ou telle chose, c'est tel interlocuteur. Et avec cela, on donne les moyens à cet interlocuteur pour l'exercer. Et croyez-moi, la commune a l'habitude d'exercer les compétences au sous près et forcément, souvent, quelquefois, avec des bouts de ficelle, donc d'une façon très économe. On n'est pas là pour créer une dépense supplémentaire.
Justement, le Premier ministre dit vouloir une meilleure maîtrise des dépenses sociales et des collectivités territoriales. Êtes-vous prêt à consentir à davantage d'efforts?
Oui. Nous, les efforts, on les fait régulièrement, constamment. Donc, encore une fois, on a des budgets, nous, que l'on doit établir équilibrés. Bon, voilà, point barre. Donc, on fait ce qu'on a. Donc, la volonté de dire, êtes-vous prêt à faire des efforts? Sacré tonnerre, il y a longtemps que ces efforts, on les fait au fur et à mesure. Si on prend l'exemple, encore une fois, on vient de loin, quand même. On nous a supprimé certaines potentialités financières, notamment dans le cadre de la commune. Aujourd'hui, on n'a plus que comme ressource impôt le foncier bâti et le foncier non bâti. Donc, on nous a. Alors, on est compensé pour partie. Les compensations qui, on le sait, qui ne suivent pas. Enfin, bref, qui diminuent régulièrement, etc. Mais surtout, on n'a plus de lien direct avec nos administrés par rapport à l'aspect financier. Donc la décentralisation, ça devrait aussi être, à un moment donné, il faut reconnaître les erreurs qui ont été faites, peut-être remettre les choses en situation. Prenons l'exemple simplement de la taxe d'habitation. Franchement, la taxe d'habitation, cette suppression-là, voulue par le président, ça a éloigné l'administré du lieu où il habite, je parle financièrement, mais surtout, personne n'a jamais dit merci, d'ailleurs. Personne n'a jamais dit merci, et ça a été une erreur forte.
Ça a été une erreur, et merci, c'est bien compris, monsieur Fournier. Je rappelle que vous êtes président de l'Association des maires ruraux de France. Merci d'avoir répondu à l'invitation de France Culture. L'état de catastrophe naturelle reconnu pour 127 communes du sud-est et de l'ouest de la France. Après les intempéries qui ont fait un mort en Bretagne, annonce le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau. Cette reconnaissance permet d'initier rapidement les démarches d'indemnisation pour les citoyens touchés. Les sanctions de l'ONU contre l'Iran seront formellement rétablies ce soir après l'échec des négociations sur le programme nucléaire iranien. Des sanctions jugées illégales par Téhéran au lendemain du rejet d'une résolution présentée par la Russie et la Chine. Elle voulait accorder un délai supplémentaire à l'Iran pour tenter de trouver un accord. Siavosh Ghazi.
Le président iranien Massoud Pezeshkian a révélé que les États-Unis avaient exigé que l'Iran leur livre la totalité de son stock d'uranium enrichi pour obtenir un délai supplémentaire de seulement 3 mois pour mener des discussions diplomatiques. Nous avons refusé cela car dans 3 mois, ils vont présenter de nouvelles exigences, a déclaré le président iranien. Téhéran a convoqué ses ambassadeurs en France, en Allemagne et au Royaume-Uni pour consultation. L'Iran a également affirmé que le récent accord signé avec l'Agence internationale d'énergie atomique qui prévoit le retour des inspecteurs de l'agence onusienne, ne sera plus appliqué. Certains députés ont même demandé que l'Iran quitte le traité de non-prolifération, mais pour l'instant, aucune décision n'a été prise dans ce sens. Les conséquences sont lourdes pour l'économie iranienne. La monnaie du pays a perdu 15% de sa valeur depuis quelques jours et tous les experts prévoient que la chute va se poursuivre, ce qui va encore aggraver l'inflation qui dépasse déjà les 50%. Beaucoup craignent également qu'Israël et les États-Unis utilisent le retour des sanctions onusiennes comme prétexte pour mener de nouvelles frappes contre l'Iran.
En Moldavie, on vote demain et les enjeux de ces élections législatives sont déterminants pour le pays candidat à intégrer l'Union européenne. Mais selon les autorités moldaves, une campagne russe vise à influencer le vote dans ce pays de près de 2,5 millions d'habitants. D'ailleurs, de récents sondages montrent que le parti Action et Solidarité pro-européen au pouvoir pourrait perdre sa majorité au Parlement moldave. Hier, les autorités électorales de Moldavie ont interdit à un parti pro-russe de se présenter aux élections législative. La décision a suscité la colère de Moscou, Sylvain Tronchet.
Quand l'Union européenne dénonce les manœuvres d'influence de Moscou sur les élections moldaves, la Russie dénonce, comme à son habitude, les tentatives de manipulation des Européens sur le scrutin. Pour rester au pouvoir, les dirigeants moldaves et leurs sponsors européens ont utilisé toute la gamme des mécanismes totalitaires, affirmait ainsi avant-hier la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. La télévision gouvernementale multiplie les sujets pour dénoncer un scrutin truqué d'avance et ces dernières semaines, plusieurs responsables moldaves se sont fait piéger par Vovan et Lexus, deux spécialistes russes du canular politique, qui les ont interrogés en se faisant passer pour des opposants à la Russie. Certains médias dramatisent l'enjeu ici. La chaîne de télévision NTV affirmait hier que des troupes de l'OTAN, notamment françaises et britanniques, se sont prépositionnées aux frontières de la Moldavie pour réprimer d'éventuelles manifestations. Pour Moscou, qui occupe de facto une partie du territoire moldave en soutenant militairement les sécessionnistes de Transnistrie dans l'est du pays, cette élection est un test, un autre front dans sa guerre multiforme contre l'Union européenne.
La correspondance de Sylvain Tronchet à Moscou. Des drones non identifiés ont été observés au-dessus de la plus grande base militaire du Danemark hier, annonce des autorités danoises. Cette semaine, plusieurs survols d'aéroports dans le pays nordique ont déjà été observés. L'enquête n'avait pas permis de désigner leurs auteurs. La Cour d'assises spéciale de Paris a rendu son verdict au procès des revenantes de Syrie. Une belle-mère et ses deux belles-filles étaient parties rejoindre leur mari djihadiste en Syrie avec leurs enfants. Elles y avaient passé 5 ans entre zone de guerre et camp. La Cour est restée légèrement en deçà des réquisitions de l'avocat général. Des peines de 13 ans, 11 ans et 10 ans de prison ont été prononcées. L'une des avocates des accusés, Marie Dosé, revient ce midi sur ce que ces 2 semaines d'audience ont permis de comprendre sur ces femmes que l'on appelle les revenantes. Elle répond à Florence Turme.
La justice antiterroriste est une justice qui est dure et qui est répressive. Mais l'association de malfaiteurs à caractère terroriste est caractérisée, elle est reconnue. Ce qu'on appelle, nous, l'abandon moral, c'est-à-dire le fait d'avoir exposé ses enfants à des violences en Syrie aussi. Et on peut comprendre que les magistrats soient répressifs. L'important à cette audience, et moi j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant, c'est la prise de conscience de ces femmes. C'est le travail qui est effectué dans les prisons pour femmes par ce qu'on appelle nous les QPR, les quartiers de prévention de la radicalisation. Toutes ont expliqué leur parcours, toutes ont expliqué ce qu'elles appellent la déconstruction de leur idéologie et force est quand même de constater que chacune, à leur façon, a énormément investi la détention pour se libérer de cette idéologie mortifère. Et c'était quand même assez flagrant à l'audience, même s'il reste énormément de travail à faire, et notamment aussi pour Mayalen Duarte, qui a participé à une organisation terroriste violente et qui a aussi, elle, subi d'énormes traumatismes. Dans ce dossier, ce qu'on a vu, c'est que ces 3 femmes, malgré leur parcours et malgré leurs différences, tiennent à continuer leur travail et ont évidemment investi la détention.
L'avocate Marie Dosé au micro de Florence Turme. 2 femmes sont mortes la nuit dernière lors d'une tentative de traversée clandestine de la Manche. Ça s'est passé au sud de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Une 100aine de migrants ont tenté de prendre la mer avec une embarcation de fortune. Selon les autorités, 60aine d'entre eux seraient pris en charge par la protection civile. Depuis le début de l'année, 25 candidats à l'exil sont morts en tentant cette traversée. Le temps cet après-midi, du brouillard et des nuages sur les 2 tiers nord du pays, du Grand Est manifestent au Centre-Val de Loire et la région parisienne. Des éclaircies gagnent l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Il fera 17 degrés à Rouen et Chalon-sur-Saône, 18 à Limoges, 20 à Marseille. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé avec Alix Forgeot. Alex Dang était à la technique.